France Musique.
Musique et moi.
Bruno David.
Priscille Lafitte. France Musique.
Mes yeux buvaient tous ces détails stupides et insignifiants. Ils s'en repaissaient et s'en délectaient avec une passion que je ne puis exprimer par des mots. Et soudain, ils s'arrêtèrent net. J'avais découvert quelque chose qui gonflait sur le côté la poche de l'un des manteaux. Je m'approchai et crus reconnaître à travers l'étoffe tendue le format rectangulaire d'un livre. Un livre. Mes genoux se mirent à trembler. Un livre. Il y avait 4 mois que je n'en avais pas tenu dans ma main et sa simple représentation m'éblouissait.
Thank you.
Bonjour Bruno David.
Bonjour.
Bienvenue sur France Musique. C'est un mirage, un bal fantasmé que nous venons d'entendre par l'orchestre révolutionnaire et romantique de John Eliot Gardiner, le deuxième mouvement de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz. Et on se prend à rêver de concerts, de ballets, de musique vivante en écoutant cette symphonie fantastique, de la même manière que dans le texte que vous nous avez lu, Bruno David, un extrait du Joueur d'échecs de Stefan Zweig, l'objet tant désiré par le narrateur est un livre qui prend donc forme et réalité dans sa poche. Comment est-ce que vous nourrissez votre besoin de culture pendant ce temps de pandémie, Bruno David ?
Alors déjà, dans ce temps de pandémie, j'ai pas tellement de temps parce que je dois aussi piloter le Muséum National d'Histoire Naturelle, ce qui n'est pas une chose si simple que ça, et c'est même presque paradoxalement plus compliqué quand le muséum est fermé que quand le muséum est ouvert. Donc il y a déjà cette activité. Néanmoins, j'adore lire. Je suis un homme de livres et de romans classiques et de toutes sortes d'autres lectures aussi, mais finalement assez peu de lectures scientifiques. Et c'est une drogue chez moi, c'est-à-dire que je ne peux pas ne pas lire chaque jour.
C'est une idée fixe comme chez Berlioz ?
C'est pas forcément une idée fixe, c'est vraiment une sorte de besoin physiologique que j'ai, et ce rapport à la lecture un petit peu particulier. Et c'est pour ça que ce texte de Stefan Zweig, où le héros du roman se retrouve confronté à l'absence de livre et découvre ce livre et fantasme autour de ce que peut être ce livre, qui se révèle être un manuel d'échecs finalement. Donc il a une forme de déception au départ avant de réaliser que c'est aussi assez fantastique à utiliser quand on est en prison. Et donc, il y a ce rapport au livre, et c'est ça que je voulais souligner dans cet extrait de Stefan Zweig.
Alors, permettez que je vous présente un peu davantage. Donc, compris que vous êtes président du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Vous êtes naturaliste de formation, spécialisé en paléontologie, en sciences de l'évolution et de la biodiversité. Et vous venez de signer un livre chez Grasset, à l'aube de la sixième extinction, ou « Comment habiter la Terre ». On peut vous entendre chaque matin à 6h sur France Culture dans une chronique intitulée « Le monde vivant » et vous êtes également mélomane. Et nous allons tenter ce matin d'établir des rapprochements entre votre parcours scientifique et vos découvertes musicales. Et pourquoi pas esquisser une petite histoire de la musique dans son contexte écologique, chaque compositeur ayant écrit dans son époque et chaque période de notre civilisation ayant construit un rapport à la nature qu'il serait intéressant que vous nous décryptiez, si vous le voulez bien, Bruno David. Alors avec Berlioz, nous sommes déjà avancés dans la maîtrise et l'exploitation de la nature. Nous sommes en pleine révolution industrielle, celle des années 1830. Faisons, si vous voulez bien, un petit tour un siècle plus tôt en Italie, quand Vivaldi donnait des couleurs chatoyantes à l'automne. Thank you. une version des Quatre Saisons transcrite pour flûte par François Lazarevitch, entouré des musiciens de Saint-Julien. Et nous voilà plongés dans l'automne selon Vivaldi. Aviez-vous accès immédiatement à la nature quand vous étiez enfant, Bruno David? Est-ce que vous étiez curieux de cette nature-là?
Oui, j'ai toujours été habité par une forme de curiosité. Alors j'étais aidé par un contexte familial où j'avais mes deux parents qui étaient naturalistes. Donc forcément, ça aide. Aussi, j'étais à Lyon, oui, en banlieue lyonnaise en fait, avec une maison qui avait un jardin dans la grande banlieue lyonnaise. J'ai bénéficié de ce jardin, mais j'ai surtout bénéficié de cette culture naturaliste, avec environnée d'ouvrages naturalistes, aussi de collections de papillons, de choses comme ça, d'insectes.
Sur les murs de votre maison?
Sur les murs ou sur les étagères, oui, il y avait beaucoup de choses comme ça. Et puis après, bien sûr, comme tous les enfants, une certaine passion pour les animaux. C'est ce qu'on peut aussi regretter d'ailleurs aujourd'hui, c'est qu'on n'ait pas plus de contact avec la nature et qu'on ne cherche pas à plus cultiver les enfants en histoire naturelle autour de ce que sont les animaux, parce que c'est un âge où tout le monde est passionné par cela.
Est-ce que vous étiez curieux de musique, enfant?
J'ai toujours été curieux de musique. Alors il se trouve que j'étais dans une famille où on n'avait pas de télévision. Et donc le soir, avec mon frère, on se couchait et on lisait. Et mes parents travaillaient, et ils travaillaient en écoutant de la musique classique. Donc au bout du couloir, j'entendais de la musique classique en m'endormant. Alors c'est peut-être ce qui m'a donné un certain goût pour la musique classique, même si j'ai une oreille absolument catastrophique. J'ai beaucoup de difficultés à reconnaître un morceau d'un autre, et j'ai encore plus de difficultés à chanter, et
je vous épargnerai. Vous demander ce matin. Et ces Quatre Saisons de Vivaldi, par exemple, faisaient partie de la discothèque de vos parents?
Oui, c'est pour ça. Et l'automne, alors quand on est enfant, on est peut-être plus attiré par des morceaux qui sont un petit peu plus faciles à écouter. Et j'ai tout de suite été attiré particulièrement par l'automne, oui, plus que par le printemps, l'hiver ou l'été. Même si maintenant, si vous me demandiez de choisir un morceau des Quatre Saisons, j'aurais plutôt tendance à choisir l'Adagio de l'hiver que l'Allegro de l'automne.
Et qu'est-ce que dit Vivaldi de son époque, de son rapport au monde, dans cette façon de rendre la nature audible et sensible? Qu'est-ce que vous y entendez, vous, en tant que naturaliste?
Alors, on est en 1723, on est vraiment dans l'enfance de l'histoire naturelle. On est avant Buffon, grand naturaliste français, mais qui est mort en 1788 et qui a commencé de diriger l'ancêtre du muséum en 1739. Donc, on est vraiment avant. On est encore plongé dans des légendes et dans des croyances. On croit, par exemple, que les oursins fossiles que l'on rencontre dans les terrains sont des pierres d'étoiles qui sont tombées du ciel. On pense que d'autres organismes qui ressemblent à des balles de fusil, qui s'appellent des belemnites, correspondent à une sorte d'os de calmar, d'un calmar d'aujourd'hui, si vous voulez, de manière très approximative. Hein, là, franchement, mes collègues naturalistes peuvent me haïr pour mes propos. On appelait ça des pierres de foudre, parce qu'on pensait que c'était la foudre qui avait frappé la terre. On interprétait des dents de requin comme étant des langues de serpent, etc., etc., ou des langues pétrifiées.
Donc un rapport enfantin à la nature, en fait.
Oui, on était dans un balbutiement. On est au début du XVIIIe siècle, on est encore en train d'essayer de comprendre, mais on ne comprend pas. On n'a pas les clés de lecture, notamment dans l'histoire naturelle. Donc on est à mi-chemin entre les légendes du Moyen-Âge et les grandes découvertes du XIXe siècle qui vont venir plus tard et qui vont éclairer vraiment les choses de manière scientifique.
Unbekannter Ort. Ha, eine männliche Figur nähert sich dem Tal.
Jener Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heißa, hopsa, sa. Vogelfänger ist bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Stets lustig, heißa, hopsa, sa, ihr Vogel. Fänger ist bekannt, bei Wald und Grund im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich fing sie dosenweis für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein.
Anne Oeseler et son apôtre dans la flûte enchantée de Mozart. Ici, la version du Concerto Köln dirigée par René Jacobs. Daniel Mozart joue le rôle de Papageno. Est-ce que c'est proche de vos souvenirs à vous, Bruno David?
Oui,
cette version-là.
Ce morceau, alors cette version, je ne sais pas, mais ce morceau, en tout cas, est très proche puisque quand j'avais 13 ans, il se trouve que j'ai fait un voyage en Autriche avec mes parents et qui m'avaient emmené un soir voir la flûte enchantée de Mozart à Salzbourg dans un théâtre de marionnettes. Donc mon premier contact avec la flûte enchantée, ça a été un spectacle de marionnettes chantées avec la flûte enchantée. Et j'en ai encore un souvenir, enchanté bien sûr.
Ça devait être magique, oui.
C'était assez spécial, effectivement, et ça m'a beaucoup plu, à tel point que j'ai encore des images de ce spectacle en tête.
Alors Papageno incarne la proximité avec la nature, une certaine naïveté
oui.
peut-être.
C'est un perroquet, c'est le papagaï en allemand. Donc.
En contraste avec Tamino et Pamina qui suivent la voie de la discipline et de la raison, est-ce que la philosophie des Lumières qui est sous-jacente dans cet opéra de Mozart rejaillit sur le rapport à la nature aussi à cette époque?
Oui, je pense qu'on est à une époque avec ce siècle des Lumières où la notion de nature, la connaissance de la nature qui commence à s'approfondir, parce que par rapport à Vivaldi, on est quand même 70 ans plus tard, influence la façon dont les hommes se pensent dans le monde et dont les hommes se positionnent sur la planète. Et on en a encore terriblement besoin aujourd'hui. Mais à cette époque, je pense que la société s'est forgée aussi à travers ses relations avec la nature telles que commençait de les lui révéler la science.
Est-ce qu'on met les espèces en cage, comme l'Oeseler Papageno? C'est le moment des cabinets de curiosité, c'est cette époque-ci?
C'est cette époque, on va être à la fin des cabinets de curiosité, au moins en France, puisque la Révolution est déjà commencée. Donc les cabinets de curiosité se sont construits depuis fort longtemps, depuis le Moyen-Âge. Des gens riches se sont appropriés des objets naturels, que ce soit des minéraux, des plantes ou des animaux, qui étaient des curiosités. Et ils les empilaient, sans ordre apparent, simplement pour le plaisir de pouvoir les contempler, de pouvoir les montrer éventuellement à leurs invités, et de montrer à quel point ils étaient riches et puissants, de pouvoir avoir accumulé toutes ces choses un petit peu bizarres. Et puis progressivement, l'ordre est entré dans ces cabinets de curiosité. C'est-à-dire qu'on a cherché à les ordonner par correspondance, par similitude de forme ou d'aspect, puis par les ordonner, plus récemment, à travers la logique de l'évolution biologique. Et donc, c'est devenu des collections d'histoire naturelle. Et là, on est au début de la Révolution. Le muséum va devenir muséum d'histoire naturelle en 1793, seulement 2 ans plus tard. Et les collections royales, les collections des cabinets de curiosité aristocratiques vont rejoindre les collections nationales avec des statuts de l'époque de 1793 qui étaient extraordinairement précurseurs et que j'espère poursuivre dans le même esprit, avec une devise pour le muséum qui est émerveillé pour instruire. Donc évidemment, on doit s'émerveiller devant ces objets d'histoire naturelle, mais aussi c'est pour s'instruire, c'est pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et on a de plus en plus besoin de comprendre le monde qui nous entoure. Nous sommes face à une crise environnementale majeure. On a besoin d'histoire naturelle pour comprendre ce qui nous arrive.
Bien sûr, le même Mozart inscrit dans son requiem notre rapport à notre finitude. Vous aimeriez qu'on écoute le Lacrimosa dans la version enregistrée par Leonard Bernstein en 1989. C'est cette version à laquelle vous êtes attaché, je crois. On l'écoute. Le Lacrymosa, enregistré par Leonard Bernstein à la tête du chœur et de l'orchestre de la radio bavaroise. C'est un enregistrement de 1989.
France Musique.
Priscille Lafitte. Musique et moi.
Bruno David est l'invité de Musique et moi ce matin, naturaliste, président du Muséum d'Histoire Naturelle et auteur donc d'un livre à l'aube de la sixième extinction paru chez Grasset. Qu'est-ce que cette époque à la fin du XVIIIe siècle nous apprend aussi sur notre rapport peut-être à la mort, ou est-ce qu'on est déjà dans un questionnement sur notre espèce humaine ou sur la nature, sur des questions d'extinction déjà?
Ah non, je ne pense pas. Même s'il y a des extinctions qui se sont déjà produites ou qui sont en train de se produire, on peut penser au dodo de l'île Maurice qui a été éradiqué par les marins qui cherchaient simplement de la nourriture sur une île.
C'est un siècle plus tôt, je crois, le dodo.
Oui, c'est un petit peu avant. Mais néanmoins, bon, il y a quelques espèces qui ont été éradiquées. Il y a la rétine de Steller qui ne va pas tarder à l'être. Donc c'est un mammifère marin qui vivait dans le Pacifique Nord et qui a été aussi trop facile à chasser et trop disponible en termes de nourriture pour les marins qui passaient par là. Qu'on peut comprendre, je pense qu'on aurait
comme pour le dodo, c'est la chasse qui produit cette extinction.
C'est essentiellement ça. C'est la quête de nourriture dans des contrées qui étaient peu propices à trouver des nourritures. Et je pense qu'on aurait fait les mêmes erreurs que nos prédécesseurs, c'est-à-dire qu'on serait comporté de la même manière. Il ne faut pas les juger pour cela. C'était simplement les circonstances qui étaient comme ça. Et les gens de l'époque n'avaient pas conscience de ça du tout. On était encore dans une nature qui était finalement très généreuse, très abondante et même qui pouvait même être hostile par rapport aux hommes. Ils la percevaient de cette manière-là. Donc on ne peut pas leur reprocher. Néanmoins, bon, là on est sur le Requiem, on est même sur le Lacrymosa du Requiem, donc quelque chose qui est vraiment plein d'émotions. Et j'espère que ce qui concerne aujourd'hui, ce n'est pas prémonitoire de ce qui pourrait arriver à la biodiversité.
C'est un Requiem qui vous est amené à écouter dans quelles circonstances, vous ?
J'aime beaucoup sa lenteur. J'aime beaucoup la manière dont ce Lacrymosa est abordé par Leonard Bernstein. C'est un requiem que j'écoute régulièrement en travaillant. Et il se trouve, à titre personnel, que c'est aussi ce Lacrymosa de Mozart. C'est un morceau de musique qu'a joué mon deuxième fils quand il faisait de la musique.
Au fait, est-ce que vous jouez d'un instrument, vous ?
Ah non, pas du tout. Ça serait catastrophique. Là aussi, je suis très, très mauvais. Franchement, j'accompagnais mon deuxième fils quand il était petit pour jouer de la musique.
Quel instrument, lui ?
Alors c'était un orgue électronique, enfin un piano, si vous voulez, assez simple. Quand je suivais optiquement les notes, parce que je suis incapable de les reconnaître à l'oreille. Donc je me rendais compte éventuellement qu'il y avait une fausse note, parce que je me disais, oh, c'est plus aigu ou moins aigu, puis je voyais les notes graphiquement sur la portée, et c'est ça qui me permettait de suivre.
Donc vous cherchez quand même à transmettre une culture musicale que vous a inculqué vos parents.
Alors, j'ai pas du tout cherché à transmettre. Là aussi, c'est assez personnel, mais c'est mon fils, quand il avait 5 ans, il est passé devant une école de musique. Il a dit, qu'est-ce que c'est ? C'est une école de musique. Il a dit, j'aimerais bien faire de la musique.
Alors, 16 ans après ce Requiem, Beethoven, lui, composait son ouverture Coriolan.
Thank you.
C'est l'ouverture Coriolan, dirigée par Jordi Savall à la tête du Concert des Nations. Et c'est une pièce sur l'héroïsme de la figure de Coriolan, cette ouverture, donc composée en 1807. Elle figure parmi vos premières découvertes musicales, Bruno David. Vous êtes donc passé par cette pièce pour découvrir Beethoven ?
Oui, en partie, parce qu'il se trouve que j'avais, quand j'étais en sixième, j'ai eu un professeur de musique qui était un vrai musicien, qui avait été au contact de Maurice Ravel d'ailleurs, donc ça remonte assez loin. Alors il était déjà très âgé quand je l'ai eu comme professeur, et il nous parlait souvent de Ravel, et c'est à travers l'ouverture de Coriolan, c'est la première fois que j'ai réalisé que la musique pouvait raconter des histoires. Puisque bien sûr, il nous a fait le lien entre cette musique, ce déroulement de cette ouverture de Coriolan, et puis l'histoire de ce général romain qui a d'abord gagné au nom de Rome, et puis après qui a été exilé par Rome, qui a été renié par Rome, qui s'est allié finalement avec les ennemis de Rome et qui risquait de marcher sur Rome. Et puis sa mère et sa femme sont venues dans sa tente pour le supplier de ne pas marcher sur Rome, de revenir sur sa décision, ce qu'il a fait. Donc c'est toute l'histoire à la fois d'une hésitation, mais également d'une volonté et d'un engagement. Et je trouve que finalement c'est une belle histoire parce que, au-delà de cette histoire particulière de Coriolan, c'est peut-être aussi le symbole qu'on peut changer d'avis, qu'on peut changer de comportement par rapport à la biodiversité qui nous entoure, qu'on doit s'engager, qu'on doit avoir une volonté, et puis que finalement on a aussi la possibilité d'agir et de réagir, et donc de changer, comme a fait Coriolan finalement dans sa trajectoire.
À quel moment quand même dans votre enfance ou de votre adolescence la question de la biodiversité est arrivée jusqu'à votre conscience ?
Oh, je daterais ça parce que j'ai des souvenirs encore assez précis de ce moment-là, je daterais ça de 1970. Et ou 71, je ne sais plus quelle était l'année exacte, mais enfin c'est tout début des années 70 où il y a eu une année de la nature ou de l'écologie. Alors, on ne parlait pas encore de biodiversité, mais il y a eu cette année, il y a eu ce moment particulier où les premiers écologistes commençaient d'émerger dans les médias. C'est l'époque de René Dumont, enfin c'est cette époque-là. Où il y a eu cette année, je ne sais pas si c'est pas à cette époque-là aussi que... sous le gouvernement de Pompidou, enfin sous la présidence de Georges Pompidou, il y a eu le premier ministre de l'Environnement qui était Robert Poujade. Et là, on a commencé à prendre conscience que finalement, il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas bien. Mais c'était une prise de conscience qui a été très progressive, hein. Il faut comprendre aussi, sans jeter de pierre et juger rétrospectivement le comportement des gens qui vivaient à cette époque-là, qui étaient adultes à cette époque-là, franchement, il y avait relativement peu de problèmes. Il faut voir que la croissance, ne serait-ce que la croissance démographique sur la planète, est exponentielle. Quand je suis né, en gros, on était 2,5 milliards, 3 milliards d'habitants sur la planète. On a été multiplié par 3 en l'espace d'une vie. Donc même si la pression moyenne n'avait pas changé, globalement, la pression aurait été multipliée par 3. Sans compter que la pression moyenne a augmenté aussi. Cette prise de conscience n'existait pas, elle était encore très balbutiante. Elle était vraiment encore dans les...
Même chez vos parents qui étaient naturalistes.
Oui, alors... J'étais environné quand même de parents donc naturalistes et on faisait relativement attention aux choses. Mais je dis bien relativement, parce que pour faire attention aux choses, il faut vraiment avoir la prise de conscience du risque qu'il y avait. Donc il y avait une prise de conscience, on faisait attention, on ne jetait pas de papier par terre, enfin il y avait toute une série d'éducations qui venaient derrière et qui faisaient qu'il y avait cette prise de conscience déjà. Mais il n'empêche que quand j'étais alors un peu plus jeune même, avec l'ouverture des premiers supermarchés, bah, j'ai goûté de la soupe de tortue, j'ai mangé sans doute un peu de requin, de l'alligator, parce qu'on était curieux de tout, et ces goûts nous étaient apportés dans les premières grandes surfaces, et c'était un peu la fête que d'aller dans ces grandes surfaces une fois par semaine avec mes parents pour acheter un petit peu de tout et s'ouvrir sur le monde aussi. C'était une manière de s'ouvrir sur le monde dans ces années 1970, fin des années 60, début des années 70, avec la meilleure bonne conscience du monde. Des choses évidemment que je ne referai absolument plus aujourd'hui.
Thank you. voilà en 1808 dans une vision idéalisée de la nature composée par Ludwig van Beethoven qui aimait décrire ses longues promenades dans les environs de Vienne. Nous entendions ici le premier mouvement de sa symphonie pastorale dans une version enregistrée par l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig sous la direction de Herbert Blomstedt. Et dans cette chronologie parallèle que nous cherchons à établir avec vous, Bruno David, ce matin entre musique et avancée scientifique, où en sommes-nous dans la conscience collective de notre environnement ?
Alors nous sommes au début du 19e siècle et nous sommes vraiment dans le siècle au cours duquel l'histoire naturelle va vraiment s'enraciner dans la science. Je vais simplement vous en donner quelques exemples. 1808, Lamarck est présent, Cuvier est présent. Lamarck, ça veut dire une certaine vision de l'évolution biologique, même s'il avait tort sur certains aspects, il avait quand même cette vision que le monde avait changé. Cuvier, c'est l'anatomie comparée aussi, la comparaison des organes, ce qu'il appelait la corrélation des organes, donc les plans de construction des organismes. Puis on allait bien sûr avoir Darwin, on en parlera un petit peu plus tard. On allait avoir Haeckel en Allemagne, qui est l'inventeur du mot écologie. Il y a Lyell en Angleterre, qui est un des pères de la stratigraphie. Quel âge avait la Terre ? Comment savoir quel était l'âge de la Terre à l'époque ? On regardait les sédiments, les couches sédimentaires, et on imaginait combien de temps il fallait pour déposer un centimètre de sédiments. Et on arrivait parfois à des âges complètement astronomiques, jusqu'à 10 milliards d'années pour la Terre, ce qui est plus que ce qu'on considère aujourd'hui. Voyez ? Mais tout ça, ça s'est mis en place progressivement. Alcide d'Orbigny, professeur au muséum, qui invente la stratigraphie, qui invente les étages stratigraphiques. Donc le découpage des couches géologiques en grandes strates qui correspondent à des périodes de l'histoire géologique de la Terre. C'est Pasteur, évidemment, et la microbiologie. Cor, en Allemagne, toujours microbiologie. Un moins connu, sans doute, Louis Agassiz, en Suisse, qui découvre le rôle des glaciers dans le passé et les glaciations sur les Alpes. Vous voyez, tout ça, c'est le 19e siècle. C'est vraiment la naissance scientifique de l'histoire naturelle à cette époque.
Mais est-ce que le romantisme aussi a induit à cette époque-là un rapport à notre environnement naturel qui était un petit peu différent de celui qu'on perçoit aujourd'hui ?
Oui, bien sûr, le romantisme, c'est une relation particulière à la nature. C'est une relation très idéalisée aussi. C'est ce qui a donné le courant qui s'appelle Naturphilosophie en Allemagne, qui est cette relation privilégiée avec la nature, cette relation presque charnelle, filiale, qui a beaucoup influencé la société de l'époque. Ça fait partie des grands moments où l'histoire naturelle en général et la vision qu'on pouvait avoir de la nature a influencé le comportement des sociétés et donc le comportement des hommes sur la planète, au moins dans les pays occidentaux de l'époque. Ça a été bien sûr le siècle des Lumières en France, ça a été la Naturphilosophie en Allemagne, ça a été au moment où Darwin est arrivé en Angleterre.
On est dans une conception de maîtrise de la nature ?
Alors oui, à l'époque, on est clairement dans une conception de maîtrise au moment de la naturphilosophie, du romantisme, aussi de protection de la nature, un petit peu, mais pas tant que ça. Parce qu'il faut bien comprendre que les hommes sont peu nombreux sur la planète et que la nature, elle est plutôt considérée comme hostile. Et que, si on remonte à des périodes plus anciennes, d'avoir un lion dans son jardin quand on est un grec antique, c'est pas forcément très agréable. Donc il y a une certaine opposition à la nature qui s'est traduite aussi tout au long du 19e siècle. Si on prend les sculptures de Frémiet, par exemple, qui sont au muséum, vous entrez dans la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée, et vous voyez à l'entrée cet orang-outan en train de se battre avec un homme, en train d'étrangler l'homme, on voit bien qu'il y a une lutte avec la nature. Si vous circulez entre les deux serres du Jardin des Plantes, vous avez ce qu'on appelle le dénicheur d'ourson du même Frémiet. Et là, on voit un homme en train de se battre avec un ours parce qu'il a capturé l'ourson et il veut tuer la maman ours. Et l'ours se débat, est en train de tuer le chasseur lui-même. Enfin, il y a vraiment un combat avec la nature. Il y a une relation avec la nature qui est une relation d'opposition. Cette relation d'opposition, elle va s'estomper au fur et à mesure que l'homme va dominer, jusqu'à ce que l'homme finisse par se pencher au chevet de la nature, en quelque sorte, dans les années 1970-1980. Et puis qu'on réalise ensuite que ça ne suffit pas. Nous faisons partie de la nature, et je pense que c'est la grande leçon du XXIe siècle, que de dire nous sommes partie prenante de la nature, nous n'avons pas le droit de simplement nous positionner en extérieur, même si c'est tentant, et de regarder ce qui se passe dans la nature. Nous sommes sur le terrain. J'ai l'habitude de dire, si on prend la comparaison avec une équipe de football, nous sommes des joueurs. Nous sommes ni en position d'arbitre, ni en position d'entraîneur.
Yeah. cherchez la gloire aux ailes ennemies, les premiers, les plus braves, aux formes de la venue. J'irai combattre pour mon pays, et si vers lui Dieu me rappelle, je veillerai sur toi fidèle. Oh, Marguerite, avant de quitter ces lieux,
Peter Mattei dans cette ère de Valentin, au deuxième acte du Faust de Charles Gounod, une prière pour protéger sa sœur Marguerite. Peter Mattei est ici accompagné par l'Orchestre Philharmonique Royal de Stockholm, dirigé par Laurence Rehn.
France Musique,
Priscille Lafitte, Musique et moi.
Bruno David est l'invité de Musique et moi ce matin. Bruno David, naturaliste, président du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris et auteur d'un livre qui vient de paraître chez Grasset, À l'aube de la sixième extinction. Est-ce qu'en 1859, qui est la date de ce Faust de Gounod, la civilisation a déjà pactisé avec le diable, en quelque sorte ?
Ah oui, la révolution industrielle est avancée, alors je ne sais pas s'il faut diaboliser le comportement de nos ancêtres, parce qu'encore une fois, c'est trop facile de juger de manière rétrospective. Je pense qu'on aurait fait les mêmes erreurs qu'eux si on avait été à leur place. Donc gardons-nous de jugements péremptoires. C'est simplement un constat qu'on peut faire, que cette révolution industrielle se met en marche. Et c'est à partir de là qu'on va exercer une pression de plus en plus forte sur la nature, sur le reste du monde vivant. Mais c'est factuel, c'est comme cela.
On paye encore les conséquences aujourd'hui de cette révolution, non ?
Nous y sommes encore, nous sommes dans le prolongement finalement. Et on n'a pas cessé d'y être et même de la développer. De plus en plus. C'est ce qui a permis aussi finalement le développement de la population mondiale. C'est ce qui a permis beaucoup de choses. Et donc d'être plus nombreux, donc d'exercer plus de pression, etc., etc. Mais 1859, c'est aussi la publication de l'Origine des espèces de Darwin.
Quelle drôle de coïncidence.
C'est une drôle de coïncidence. Hein. Faust est l'Origine des espèces de Darwin. Donc là, on change de concept, on change de monde, avec beaucoup de difficultés. Hein. Au départ, ça prend très très mal. Hein,
beaucoup de réticence.
Ouais. Ça a à la fois un très grand succès dans la société, et ça percole dans la société, mais il y a des réticences énormes qui se font jour, parce que cette histoire de sélection naturelle, de survie des plus aptes, finalement, la nature produit énormément, donc il y a beaucoup de morts derrière, c'est ça que ça veut dire. Il y a des individus qui ne survivent pas, qui ne vont pas jusqu'à se reproduire, et il y en a quelques-uns qui vont se reproduire et qui vont donner à la génération suivante, etc. Et c'est eux qui vont finalement orienter petit à petit le cours de l'évolution. L'évolution, c'est une immense généalogie, donc un immense fleuve d'ancêtres et de descendants qui va bouger doucement en fonction des contraintes environnementales externes qui va amener à sélectionner certains et éliminer d'autres. C'est ça qui se passe en fait. Et ça, c'est 1859. Et ça va rentrer progressivement dans les esprits, dans les cerveaux. C'est aussi, alors si on fait référence à Faust, l'homme tombe de son piédestal aussi là. Parce que ça veut dire qu'il est évidemment plus du tout maître de son destin, que c'est l'évolution qui a amené l'espèce humaine sur Terre, et qu'il y a des relations de parenté entre les espèces. C'est ça qui est très important dans Darwin, ces relations de parenté. Ça veut dire que nous avons des cousins chez les animaux. Nous sommes des animaux. Et il faut bien en avoir conscience, il faut en avoir conscience aussi aujourd'hui, parce que tout le monde n'en a pas forcément conscience aujourd'hui. Mais nous sommes des animaux. Et à ce titre, nous sommes sensibles par exemple à des virus, comme en ce moment. C'est-à-dire qu'à la fois, on a une technologie énorme qui va se développer, et on peut se dire, bah finalement, on est les maîtres du monde là, avec cette technologie. Et d'un autre côté, on nous dit, attention, nous sommes une espèce parmi d'autres espèces, en lien avec ces autres espèces. C'est ce que dit l'écologie de Haeckel, qui naît en 1870 à peu près, donc pas tellement longtemps après Darwin. D'ailleurs, Haeckel était profondément darwinien. Donc tout ça, c'est lié, ça forme un tout, et parallèlement, les deux concepts vont se développer jusqu'à finir par se rejoindre aujourd'hui, en gros. Hein, on voit bien que ce développement technologique a ses limites et que nous sommes vraiment une espèce parmi les autres espèces. Et le darwinisme a mis très longtemps à s'implanter en France. Ça s'est fait dans les années 1920, pratiquement, très très longtemps après.
C'était la pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel. Pierre Boulez à la tête de l'orchestre de Cleveland. Et quand Ravel compose cette pavane, la grande galerie de l'évolution à Paris, que vous présidez actuellement depuis 6 ans, je crois, Bruno David, cette grande galerie a pris forme depuis une petite décennie. Elle a été dessinée par l'architecte Jules André en 1889. Et nous l'apercevons aujourd'hui intacte à peu près. Cette hall immense, les balcons, la grande verrière...
Elle a beaucoup changé, notamment en 1994, avec l'architecte Chemetov qui a complètement refait l'intérieur. Et elle n'avait pas vraiment cet aspect-là. Même si globalement, le bâtiment, bien sûr, est resté le même. Elle a succédé à une galerie de zoologie. Et pour donner vraiment un écrin formidable à la présentation de la biodiversité de l'époque, de la richesse des collections. Puisqu'à cette époque, l'objectif, c'était vraiment de présenter toutes les collections, un maximum de collections. C'était presque un outil diplomatique pour montrer la puissance d'un État à travers la richesse de ses collections naturalistes.
Oui, quelle abondance quand même dans cette collection. C'est une réunion de collections privées, si je comprends bien.
Alors à l'origine, ça a été une réunion de collections privées, mais il faut remonter un siècle avant. Au moment de la Révolution, il y a la captation de ces cabinets d'histoire naturelle, de ces cabinets de curiosité aristocrates. Les guerres révolutionnaires, les guerres de l'Empire qui font que la France accumule énormément de collections qui viennent également d'autres pays, jusqu'à l'Égypte, mais aussi beaucoup en Europe. Et des collections qui sont que très partiellement restituées au moment du congrès de Vienne en 1815, où il y a des négociations et des spécimens qui repartent dans leur pays d'origine, puis il y a des spécimens qu'on garde, dont certains qui sont absolument prestigieux. Nous avons par exemple toujours en collection au Muséum National d'Histoire Naturelle le grand animal de Maastricht, qui est un dinosaure nageur de la fin du Crétacé, qui a été pris en 1794 aux Pays-Bas et qui est toujours dans nos collections.
Thank you.
Nous parlions ensemble d'apprentis sorciers, juste à l'instant, Bruno David, ou plutôt des démiurges. Est-ce que vous rêveriez, Bruno David, parfois de revenir en arrière à cette époque où a été composé l'apprenti sorcier de Paul Dukin en 1897, de chercher à comprendre la formule magique, d'arrêter le grand emballement industriel?
Ça aurait été l'idéal, évidemment, mais bon, ceci dit, je suis très pragmatique et je sais très bien qu'on ne peut pas revenir en arrière.
Vous comprendrez les mêmes décisions aujourd'hui ?
Non, certainement pas. Ah ben non, certainement pas. L'histoire, elle n'est pas ni prédictible ni rétrodictible et bon, elle se déroule simplement. Et évidemment, en connaissant ce qu'on connaît aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait pas pris les mêmes décisions en 1897. Ce morceau m'inspire quand même ce que vous venez de dire, c'est que il ne faut pas se prendre pour des démiurges. Il faut comprendre que la biodiversité, la vie en général, n'appartient pas à un monde déterministe. C'est-à-dire que si on est dans une position A, on ne peut pas prévoir qu'on va être ensuite à B, puis à C. Ça peut être B', C seconde, ça peut être autre chose.
Vous voulez dire qu'à l'époque, on ne pouvait pas prévoir dans quelle situation nous sommes aujourd'hui ?
On ne pouvait absolument pas prévoir, simplement parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on va pouvoir contrôler la biodiversité, qu'on va pouvoir contrôler la vie. On est capable de faire des machines extrêmement complexes dans un monde déterministe. Dans le monde globalement de la physique et de la chimie, on est capable de faire des stations spatiales, on est capable de faire des centrales atomiques, des bombes atomiques même, bon, pour le bien ou pour le mal. On est capable de concevoir beaucoup de choses, mais la biodiversité ne se contrôle pas parce que la biodiversité, elle est soumise aux lois de l'évolution dont on parlait tout à l'heure avec Darwin. Et à partir de là, on croit qu'on va l'orienter dans une direction, elle va aller dans une autre. Il faut se sortir ça de la tête. On ne va pas transformer la Terre en un jardin et les océans en aquarium. C'est totalement impossible. Ça serait la pire des erreurs que de se croire en capacité de cela. Il faut qu'on se sorte de la tête que la technologie va nous sauver. Ce n'est pas possible et ça ne sera pas le cas.
Donc ce n'est pas réparable, c'est ça que vous dites ?
Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Non, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas croire qu'on va tout contrôler. Il faut accepter un certain degré de modestie qui est loin de celui que nous avons aujourd'hui, et ce degré de modestie qui nous amène à penser que la nature fonctionne, que les choses fonctionnent par elles-mêmes, et qu'il ne faut pas que nous introduisions trop de dirigisme dans leur manière de fonctionner. Il faut laisser les choses se faire aussi. Il faut accepter un certain degré d'impuissance. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça veut dire au contraire qu'il faut agir pour laisser plus de liberté au processus naturel de se dérouler. Et de les laisser se dérouler selon la manière dont ils se déroulent, selon leur habitude de se dérouler. Exerçons moins de pression. Mais ne pensons pas qu'on va corriger nos erreurs par des actions de gestion. Ça serait une nouvelle erreur, ça serait une erreur supplémentaire. Simplement, comme je le disais, parce que le vivant ne se contrôle pas. Regardez un petit virus de quelques gènes, ce qu'il arrive à faire. La difficulté qu'on a, malgré toute notre technologie, à trouver des vaccins, et puis lui, il fabrique des variants, il vient nous enquiquiner encore un petit peu plus, et ça fait un an que ça dure. Donc ça devrait nous appeler à une certaine modestie. Ça devrait nous amener à moins d'arrogance dans notre façon de regarder le reste de la planète et le reste du vivant. Et c'est ça que je souhaite derrière cet apprenti sorcier, c'est que nous ne le soyons pas. Et regardez d'ailleurs dans le dessin animé de Walt Disney, Mickey joue à l'apprenti sorcier, mais ça se termine pas forcément très très bien. Hein. Il casse beaucoup de vaisselle, si je me souviens bien.
Un extrait du Carnaval des animaux, le mouvement dit fossile pour deux pianos et ensemble instrumental, Martha Argerich et Antonio Papano, accompagnés de l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome. Nous voici donc avec Camille Saint-Saëns dans ce Carnaval des animaux. Je pense qu'il y a aussi une forte dose de parodie dans ce fossile. C'était un clin d'œil de Saint-Saëns à ses contemporains et à ceux qui ont précédé, les compositeurs qui ont précédé. On a entendu notamment Rossini. Mais c'est aussi une façon pour nous de parler ensemble de biodiversité ce matin sur France Musique. Est-ce qu'on est au bout des découvertes de toute la richesse et de toute la diversité des espèces ?
Non, on en est très loin. C'est pour ça que ce carnaval des animaux, c'est aussi une évocation de la biodiversité sur Terre. Les scientifiques ont à peu près décrit 2 millions d'espèces vivantes sur la planète. Compte tenu du rythme des descriptions, du rythme des nouvelles découvertes, on peut dessiner une courbe de progression de ces découvertes et d'augmentation du nombre d'espèces décrites. Et si on poursuit cette trajectoire, fondée sur des échantillonnages, donc de manière assez scientifique, ce sont des mathématiques simplement qu'on peut faire sur ces courbes-là, on se rend compte que la planète doit abriter en gros, dans l'ordre de grandeur, une dizaine de millions d'espèces. Donc on en a décrit 20% à peu près. Ça veut dire qu'il y a 80% qui sont encore inconnues, qui sont non décrites par la science en tout cas, et qui restent à décrire. Et c'est une course de vitesse entre l'extinction ou le déclin de ces espèces par rapport à leur connaissance et à leur description. Et on a besoin de toutes ces espèces. Ces espèces font partie du tissu vivant de la planète. Et on peut simplement donner quelques exemples d'espèces qui sont totalement anodines, où on aurait pu dire, mais c'est pas très intéressant de conserver cette espèce. On a trouvé une espèce particulièrement anodine dans les tourbières de Scandinavie, et c'est ce qui a donné la cyclosporine, qui permet aux greffes de tenir. Et le médicament anti-greffe, il vient d'un truc absolument minable, découvert dans les tourbières de Scandinavie. Et on aurait pu dire, bon, on n'a pas besoin de celle-là, pourquoi conserver cette espèce? Il faut savoir que dans des œufs d'étoiles de mer, une étoile de mer finalement assez commune, assez ordinaire, qui n'est pas très belle d'ailleurs, qui vit sur les côtes de Bretagne, dans ces oocytes, ces œufs d'étoiles de mer, on a découvert un médicament anticancéreux. Donc on découvre des nouvelles molécules comme ça chez des espèces vivantes. Il faut savoir qu'on ne connaît que 20% de ces espèces vivantes. Et que par conséquent, il y a un réservoir pour nous, pour notre bien-être gigantesque que nous sommes en train de détruire. Donc évitons cela si possible.
Et il y a un dynamisme dans la recherche scientifique pour la découverte de ces nouvelles espèces. On a l'impression que c'est quelque chose qui est très lié à vos 19e, début 20e.
Alors oui, vous avez raison, ça a été très lié à une époque de l'histoire des sciences. Ça a été oublié en gros après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a découvert le code génétique, quand on s'est intéressé au fonctionnement de la cellule, et on a fait de la biologie cellulaire et moléculaire beaucoup, et on en a fait le parangon de la science en biologie au sens large, et on s'est dit, si on comprend l'infiniment petit, comment fonctionne une cellule, on va tout comprendre. C'était une vision assez réductionniste des choses, finalement, qui sous-entendait qu'à plus petite échelle, ce qui était observé à plus petite échelle allait nous permettre de tout comprendre. On s'est rendu compte que c'était faux. C'est-à-dire qu'il y avait des propriétés particulières qui émergeaient à chaque niveau, à chaque plan d'organisation du vivant. Et il y a eu un retour vers la biodiversité en général, avec l'invention de ce terme à la fin des années 1980. Et puis avec la découverte de cette richesse immense de la biodiversité qu'on percevait, mais qu'on n'avait pas chiffrée. Et maintenant, elle est chiffrée.
C'est l'un des 44 duos de Béla Bartok pour deux violons. Ici, la danse du moustique par Sarah et Déborah Nemtanou. Bruno David, comment parvenons-nous à quantifier la diminution du nombre d'insectes? Peut-on parler d'ailleurs d'extinction des insectes?
Alors, avant de parler d'extinction, il faut d'abord parler quand même plus scientifiquement de déclin d'abondance, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'insectes. Nous sommes en train d'éradiquer les insectes. À terme, ça va finir par des extinctions. Mais nous sommes en train d'éradiquer les insectes, notamment par nos pratiques agricoles, par les intrants chimiques, par les insecticides que l'on épand partout dans nos surfaces cultivées. On parle des néonicotinoïdes en ce moment encore. Il va falloir arrêter ces pratiques un jour ou l'autre. Je ne sais pas à quelle vitesse il faut les arrêter, parce qu'il y a des soucis économiques derrière, il y a des problèmes d'acceptabilité, il y a des problème de modèle économique, il ne s'agit pas de détruire aussi complètement ce qui se fait. Je ne suis pas en train d'accuser les agriculteurs, je ne suis pas du tout en train de faire ça, mais il va falloir trouver des solutions pour cesser cela, parce que nous sommes en train de détruire la biodiversité animale des insectes, qui est essentielle à travers les pollinisateurs, mais pas que les pollinisateurs, parce que les insectes sont aussi consommés par d'autres organismes, d'autres animaux, des oiseaux par exemple, des insectivores mammifères par exemple, et tout cela participe à une grande chaîne alimentaire qu'on est en train vraiment de détricoter. C'est la grande chaîne du vivant qu'on détricote avec ces insecticides. Alors c'est certes que quand on entend ce bruit de moustique de Béla Bartok, on imagine un moustique qui se pose sur notre main et la tentation d'écraser le moustique, elle est quand même très importante.
Je dois bien l'avouer. Déjà en
1931. Et même encore maintenant, je veux dire, bon, on est tous fait pareil.
Mais est-ce que cette diminution de l'abondance, elle est propre au monde occidental ou est-ce qu'on l'aperçoit partout dans le monde?
On l'aperçoit partout. On l'aperçoit vraiment partout dans le monde, que ce soit pour les insectes, que ce soit pour les mammifères, des grands mammifères, des petits mammifères, des oiseaux. Chaque fois qu'on a pu avoir des suivis temporaires suffisamment stricts et suffisamment denses, on s'aperçoit qu'il y a ces déclins d'abondance. Chez les amphibiens, donc les grenouilles, les têtards, les salamandres, tout ça, on a ces déclins d'abondance très très importants. Et ça, c'est vraiment un point d'alerte parce que les grandes crises du passé géologique de la Terre ont fonctionné de cette manière-là, par des déclins d'abondance. Et on retrouve le même schéma, c'est ce que j'explique aussi dans le livre, on retrouve ce type de schéma de déclin qui amène à des extinctions, qui amène à des déstabilisations des écosystèmes et derrière donc à des crises majeures.
Bien sûr, oui. Que faire alors, Bruno David? Est-ce que vous apportez des solutions dans ce livre?
Je ne veux pas avoir l'attitude de quelqu'un qui donne des leçons. Ce livre, c'est d'abord un constat de ce qui est en train de se passer. C'est un constat dans notre vie quotidienne, dans la première partie du livre. C'est un constat qui est mis en regard de ce qui s'est produit dans le passé géologique de la Terre, dans la deuxième partie. Et la troisième partie évoque un petit peu notre comportement en société. Finalement, vers quoi pourrait-on aller? Donc c'est un petit peu ça, mais sans vouloir donner de leçons. Parce que je pense que derrière ce constat, c'est amener chacun devant sa propre responsabilité, à l'endroit où il se trouve. Parce que selon qu'il a des enfants, qui sont jeunes, qui ne sont pas jeunes, qu'il n'a plus d'enfants, qu'il n'en a pas encore, ses moyens d'action ne seront pas nécessairement les mêmes. Donc on ne peut pas demander à tout le monde le même effort. Il faut relativiser les choses. Mais ça n'empêche qu'il faut qu'on soit en capacité aussi de réagir. On se doit de réagir là où on est, avec les moyens que l'on a. Et ça ira mieux parce que la biodiversité est résiliente. Et je suis assez optimiste, si on a la capacité de réagir, pour inverser la tendance et retrouver une terre habitable qui soit profitable à tous.
Le printemps arrive et on a peur, c'est vrai, de ne plus entendre autant d'oiseaux, de ne plus entendre autant d'insectes. On a peur de ce silence. Alors, est-ce que cette peur vous habite ?
C'est déjà le cas et c'est déjà le cas depuis longtemps. Il y a une naturaliste américaine qui s'appelle Rachel Carlson qui a écrit dans les années 60, au début des années 60, je crois que c'était en 1963, un livre qui s'appelait « Le printemps silencieux », qui était extrêmement prémonitoire et qui expliquait déjà qu'il y avait un déclin des populations d'oiseaux et que donc les printemps risquaient de devenir silencieux, ce qui est le cas aujourd'hui. Il faut comprendre que par rapport à la richesse et à l'abondance des oiseaux qu'il y avait quelques années en arrière, 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière, on n'est plus du tout dans la même situation, aussi bien dans les villes que dans les plaines agricoles. Il y a certains environnements où les oiseaux sont toujours aussi abondants, mais il y a d'autres environnements où ils sont beaucoup moins. Les plaines agricoles, on a perdu 40% des populations d'oiseaux en 30 ans. En 30 ans, 40% en moins, on est presque à la moitié moins. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Et ça, c'est nos activités qu'il fait. Donc le printemps silencieux, il est largement amorcé. Il y a des études qui ont été faites du CNRS, du muséum, pour suivre ça avec des protocoles extrêmement stricts. Donc c'est très scientifique. C'est pas du tout des estimations au doigt mouillé en disant « oh oui, on a l'impression que ». Non, non, c'est très rigoureux, c'est très suivi et c'est suivi de la même manière depuis plusieurs décennies. Donc on a vraiment de véritables indicateurs, de véritables tableaux de bord qui nous renseignent sur ces déclins de la biodiversité et donc qui peuvent in fine, amener à des extinctions et à des bouleversements du fonctionnement des écosystèmes. Et donc, au bouleversement de nos propres modes de vie et du fonctionnement même de nos sociétés.
Thank you. qui tombe sur l'insouciance de ce Summertime de George Gershwin par le quintet de Sidney Bechet en 1939. À l'aube de la sixième extinction, comment habiter la Terre? C'est le titre de votre livre, Bruno David, qui est paru chez Grasset. Merci d'être venu nous le présenter ce matin. Et puis vous nous avez présenté bien au-delà vos connaissances scientifiques sur notre rapport au monde, sur notre rapport à notre environnement naturel. Et merci d'avoir mis ces connaissances en parallèle à l'aune de l'histoire de la musique. Merci beaucoup. Merci à l'équipe qui a concocté cette émission ce matin. Alexandre Billard à la prise de son, Philippe Petit et Olivier Guérin pour la réalisation, attaché de production Marie Ferdinand. Je vous souhaite une très belle journée sur France Musique. Et à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.